Merci beaucoup, Laurent. On peut l'imaginer, j'aurais beaucoup à dire sur le stockage et la Première Guerre mondiale, mais je m'abstiendrai parce que nous pouvons enchaîner de manière très cohérente avec l'arc et le décor. Et là, on revient à l'aspect finances publiques et sortie de la Première Guerre mondiale, parce que si la crise a été telle, on va aussi la retrouver du côté des finances publiques après ces conflits. Et alors, il faut brancher le micro, sinon on n'entendra pas.
Mon micro, voilà. Bon, merci beaucoup Alain pour cette transition, donc et merci à la FHE d'organiser ce débat. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de passerelles qui sont à envisager entre la Première Guerre mondiale et la crise actuelle sanitaire, mais surtout la crise financière et les finances publiques qui s'annoncent. Et surtout que bon, on a parlé beaucoup de temps de guerre, de mobilisation, donc la référence n'est pas non pertinente. Alors, la première réflexion que je voulais faire, c'est que c'est important que les historiens s'emparent de ces questions, parce que je pense qu'il y a des problèmes de temporalité qu'il faut mettre en avant dans nos exposés. Il y a des temporalités différentes dans les crises. Moi, je vais essayer de développer ce point. Il y a la crise, la sortie de crise à court et à moyen terme. Et donc, notamment sur les questions de dette publique, c'est un phénomène très, très important d'avoir les temporalités pour essayer de bien comprendre les événements. Et ça, c'est peut-être quelque chose que nous apportons un peu dans le débat par rapport aux économistes. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1914? La guerre qui éclate en mois d'août engendre bien évidemment des dépenses imprévues et d'autant plus lourdes que la guerre va être longue et beaucoup plus longue que prévu. Et cette guerre n'a pas été préparée, du moins du point de vue du budget. Et donc là, on va assister à la mise en place de remèdes, de bricolage par l'État, en France, mais aussi dans les autres pays belligérants, pour essayer justement de trouver très rapidement des ressources, tant pour les dépenses militaires que pour les dépenses d'approvisionnement, et qui sont, en général aussi se font beaucoup à l'étranger. Donc, il va falloir aussi des devises. Donc, tous les débats qui vont se développer en Europe sont comment financer ces nouvelles dépenses par l'impôt ou par la dette, pour schématiser. Alors, pendant la guerre, en fait, les principaux belligérants vont utiliser principalement donc ces deux outils, mais dans des proportions assez différentes. La Grande-Bretagne, tout d'abord, la Grande-Bretagne libérale, va en fait financer la guerre avec à peu près presque 30% d'impôts. La France et l'Allemagne, pour leur part, ne donnant à l'impôt que 15% des ressources du budget. Le reste du budget étant alimenté par des emprunts à plus ou moins long terme et par la planche à billets, c'est-à-dire l'émission de monnaie disproportionnée par rapport à la situation économique et du coup qui entraîne dépréciation monétaire et inflation. Donc, à travers ces différentes proportions entre les trois pays belligérants, il faut relever surtout que ces choix sont contraints par la nature, il y a des contraintes techniques, politiques et économiques. En fait, la levée rapide d'un impôt est quasi impossible. Il faut un vote du Parlement précédé de débats, et ensuite la levée de l'impôt est elle-même soumise à des contraintes techniques avec le recueil des déclarations, quand l'impôt est déclaratif, etc. Donc, il est impossible de le lever rapidement quand vous avez besoin d'obtenir en urgence des liquidités pour payer le matériel de guerre, l'approvisionnement à l'étranger. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne sont pas plus cléments que d'autres pour demander à la France de payer rubis sur l'ongle. Donc, ça a été un vrai souci, notamment en France, où en plus l'impôt sur le revenu a enfin été voté en 1914, comme vous le savez, mais il fallait peut-être le rappeler. Il ne put en fait être levé qu'en 1916 pour des recettes perçues en 1917. Donc, de fait, l'impôt sur le revenu n'a fourni que de faibles revenus à l'État pendant la guerre. Bon, je n'insisterai pas sur le nouvel impôt sur les bénéfices de guerre, qui n'a pu non plus être mis en place que tardivement en 1916, puisque Béatrice va en parler tout à l'heure. Il sera également mis en place, je vais dire, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc là, je voulais insister sur ce point, sur le fait que l'appel privilégié à la dette publique avait aussi un sens, parce qu'on n'avait pas vraiment de choix dans l'urgence pour lever des fonds. Alors, C'était ce premier point que je voulais aborder, donc pour montrer en quoi on avait aussi privilégié la dette. Donc la dette aussi, c'est évidemment une ressource qui est un peu indolore, hein, bien sûr. C'est le fait de tous les gouvernements de privilégier aussi la dette, qui est une ressource plus facile à mettre en œuvre politiquement et socialement. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on a fait beaucoup appel, là aussi parce qu'on était dans l'urgence, à des émissions de dette à court terme, voire à très court terme. Donc, je parle là des bons de la défense nationale, qui est une innovation financière en France, qui a été instituée par Alexandre Ribot. Mais également, on a relancé les bons du Trésor qui existaient auparavant, mais qui n'étaient très peu utilisés par rapport à les emprunts à long terme. Hein. Je vous rappelle que la dette publique existait bien sûr avant 1914. Et mon collègue l'a bien rappelé, elle existe depuis même la Renaissance, les cités italiennes de la Renaissance. Et en France, en tout cas, la dette publique après, au XIXe siècle, a été largement utilisée par tous les gouvernements, notamment la rente perpétuelle. Hein, c'était la fameuse rente perpétuelle où l'État empruntait sans jamais rembourser. Et donc, la Première Guerre mondiale va sonner le glas de cette rente perpétuelle et mettre en place, en revanche, des émissions à très court terme. Quand je dis très court terme, c'est de 1 mois à 3 mois. Donc, vous voyez un peu les problèmes que ça peut poser à terme, hein, c'est-à-dire que c'est une épée de Damoclès au-dessus des gouvernements, puisqu'ils doivent régulièrement rembourser ces bons du Trésor et pour cela en émettre de nouveaux. Et on verra que cela posera des problèmes justement pour les sorties de guerre. Donc voilà, c'était des formes d'innovation financière qui ne sont pas toujours réussies, mais en tout cas, de ces crises sortent souvent des innovations en termes de produits financiers. Et c'était le deuxième point que je voulais aborder. Alors, le troisième point que dont je voulais parler, c'est justement les sorties de guerre. Quelles ont été les conséquences de tous ces choix, hein, plus ou moins contraints, qui ont été faits pendant la Première Guerre mondiale? Ça offre aussi une matière à réflexion pour l'historien et pour l'actualité. On va s'arrêter plus précisément sur la situation de l'Allemagne. Les mêmes dilemmes se posaient alors qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à emprunter? Est-ce qu'il faut mettre en place de nouvelles taxes? Est-ce qu'il faut augmenter donc la dette au risque d'un surendettement insoutenable? Et comment obtenir un consensus politique et éviter l'explosion sociale? Quels outils utiliser? Est-ce qu'on va utiliser l'époque, l'annulation, le plan billet? En fait, de fait, ce qu'on a utilisé largement en Allemagne et en France, en tout cas, c'est l'inflation, hein, et, enfin, la planchée, hein, et la a bien sûr aidé à réduire la dette. Alors que l'Angleterre, elle, a une politique qui a été...
Laure, on commence à avoir des difficultés avec le son. On entend fort mal, et puis là, on vient de perdre également l'image. Alors,
Pardon ?
On a eu des problèmes de coupure du son et même de l'image.
De la livre sterling. Désolé.
Non.
Alors, bon. À quel moment ? Bon, je ne sais pas. Bon, tant pis. Je reprends. Je continue parce qu'on n'a pas...
C'était juste il y a une minute, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était... Et là, ça semble redevenu plus stable. Donc, continuons.
Très bien. Alors, donc, tout ça pour dire que les sorties de guerre ont été différentes entre la France, l'Angleterre. Et là, l'Allemagne a eu évidemment une sortie de guerre extrêmement compliquée. Et là, je voulais insister sur ce point parce que ça a eu des effets à très long terme en Allemagne. Mais il est clair que... l'Allemagne, le refus d'une politique de rigueur par la jeune République de Weimar dans le climat révolutionnaire de l'après-guerre a amplifié une situation financière déjà désastreuse, hein, puisque en fait l'Allemagne a beaucoup beaucoup, a financé sa guerre à partir de l'inflation monétaire, hein, puisqu'en fait elle émet on a émis des bons de caisse sur une caisse générale qui était adossée à la banque centrale, mais sans contrepartie. Hein. Donc après la guerre, ça a été vraiment catastrophique. Et ça s'est terminé, comme on le sait, par l'hyperinflation de 1923. Hein. Mais on peut comprendre aussi, il y a eu des débats hein, en Allemagne, on peut comprendre aussi que les gouvernants allemands n'aient pas voulu non plus amplifier la situation sociale difficile dans ce climat révolutionnaire de 1919. Donc il faut vraiment prendre en compte ces mesures, ces contextes politiques aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc ensuite on connaît la suite, hein, l'hyperinflation de 1923, le rétablissement après de... par le docteur Jarth, etc., et la mémoire collective de l'Allemagne, hein, qui est devenue extrêmement sourcilleuse sur les questions de lutte contre l'inflation. Alors, le dernier point, si j'ai encore quelques minutes, Alain, voilà, je voulais juste insister sur la question qui a beaucoup animé les années 20, hein, donc de sortie de guerre, de finances publiques, mais à l'échelon international, c'est la question des dettes interalliées. Hein, donc, il y avait eu beaucoup d'emprunts entre les États, entre la France et la Grande-Bretagne, ayant emprunté aux États-Unis, aussi bien sur le marché américain qu'ensuite, à partir de 1917, auprès du Trésor américain. Et donc, il y avait un stock de dettes interalliées important qui, a été mis en avant par l'Angleterre et les États-Unis pour que la France accepte de réduire les réparations allemandes. Donc, il y a eu cette triangulation des négociations qui a été extrêmement difficile, qui a beaucoup créé beaucoup de tensions internationales, qui a empêché la coopération financière internationale pendant les années 20. Il a fallu, peut-être, les Américains ont lancé le plan Davis en 1924, ensuite le plan Young, qui était une forme de mutualisation hein, de la dette allemande sur les marchés financiers internationaux et qui a permis pour l'économie allemande de se relever pour commencer à payer ses dettes. Bon, ensuite, on sait, les dettes interalliées vont peu à peu s'éteindre, les dettes de guerre vont s'éteindre, les réparations allemandes, en fait, vont être très peu remboursées, hein, puisque le solde sera fait en 1953. Mais on voit bien là encore que les raisons politiques ont prévalu sur le remboursement dû, et c'était une des choses que je voulais développer. Et enfin, pour terminer en quelques mots, on voit bien qu'il y a eu des contextes assez différents hein, entre les sorties de guerre, de la Première Guerre mondiale et la sortie de crise actuelle qu'on voit se profiler. Même si on met en scène les mêmes débats politiques et économiques, et voire la dimension sociale. À l'époque, donc, la dette publique était beaucoup plus soutenable qu'en 1914. Le pays n'avait pas déficit budgétaire permanent, comme c'est le cas en France depuis 40 ans. Et le désendettement partiel opéré dans l'entre-deux-guerres a été rendu possible parce qu'il y avait peu d'intervention de l'État. Encore, hein, c'était le début de l'État-providence et l'intervention d'économie de l'État était aussi à leur démarrage. Et donc, la marge de manœuvre était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. La réversibilité de la dette et du déficit était encore envisageable, ce qui est beaucoup plus compliqué à l'heure actuelle. Mais on voit aussi donc, également la différence avec l'entre-deux-guerres, du fait que l'inflation et l'évaluation qui avaient permis de résorber la dette sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre aujourd'hui du fait de la contrainte monétaire de l'euro qui empêche de recourir à la dévaluation. Et bon, actuellement, on a des taux d'intérêt négatifs, voire très bas négatifs, qui soulagent le service de la dette. Mais pour combien de temps? Là, on est surtout dans l'incertitude d'une situation inédite qui n'encourage pas à miser sur cet avantage temporaire. Voilà, je vais m'arrêter là, bon, puisqu'il y a aussi les questions de croissance, mais on voit bien que la croissance ne se décrète pas et que ça va être aussi un élément compliqué pour aider à la résorption de la dette publique. Voilà, je vous remercie.
Merci Laure, je pense qu'on reviendra sans doute sur toute une série de ces points dans le débat qui suivra, y compris parce qu'on a retrouvé la thématique de l'urgence et de l'événement et de comment on y répond, de l'acceptation par les populations et puis aussi de cette dimension de l'innovation dans les instruments financiers et dans les institutions. Et puis, on a vu ô combien, avec l'issue de la Première mondiale, là, ce poids de l'enjeu des relations internationales qui viennent se surajouter et rencontrer ces questions économiques et financières. Et puis, la transition, là encore, est très simple, puisqu'on va, avec Béatrice, entendre parler à la fois de la Première, mais aussi de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec des réflexions sur ces impositions dont on a déjà eu des allusions. Béatrice, même challenge, pas plus de 15 minutes, s'il te plaît, pour qu'on ait le temps de revenir et de débattre tous ensemble.